Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro, bonjour Guillaume, et Adrien Gindre de TF1 LCI, bonjour Adrien.
Bonjour.
Dans
bonjour.
La question en plus, ce sera Claudie Culac, présidente du collectif Je t'aide, qui vous interpellera sur le statut des aidants, Agnès Buzyn. Et puis bien sûr, question nette, en fin d'émission avec Marie-Pierre Hada de la rédaction numérique de RTL. Vous pouvez réagir en direct dans cette émission, interpeller la ministre, et nous retrouverons Marie-Pierre en fin d'émission. Alors Agnès Buzyn, voilà venu votre véritable baptême du feu politique, car à partir de mardi débute à l'Assemblée nationale l'examen de la loi bioéthique et son volet le plus inflammable, la PMA pour toutes les femmes. Le texte de tous les dangers a même reconnu Emmanuel Macron lui-même en début de semaine. Alors dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Confiante, prudente, méfiante? Vous nous le direz dans cette émission. Mais ce n'est pas le seul dossier à haut risque dont vous avez la charge. Votre portefeuille est tel que vous faites presque figure aujourd'hui de Premier ministre bis. La réforme des retraites, c'est aussi vous. Les mouvements de contestation s'étendent. À Paris, les syndicats de la RATP appellent à un mouvement de grève illimité en décembre. Et on le sait, ils ont déjà fait reculer plus d'un gouvernement. Alors, êtes-vous sûr de pouvoir mener à bien cette réforme? Il y a quelques mois, ici même, vous vous étiez prononcé pour un recul de l'âge légal à 65 ans avant de devoir vous amender. Avez-vous péché, Agnès Buzyn, par honnêteté? Nous en parlerons. Vous nous dites que non d'un signe de la tête, mais nous en parlerons longuement. Mais avant de venir à tous ces thèmes, alors nous y reviendrons. Nous y reviendrons à la deuxième partie de l'émission. Mais avant d'aborder tous ces thèmes, nous revenons sur la journée d'hier avec des fortes mobilisations et des violences à Paris. Guillaume Roquette.
Oui, la manifestation pour le climat. Les manifestations étaient gravement perturbées par les Black Blocs avec des violences. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en France, en fait, on ne peut plus manifester? Les forces de l'ordre sont impuissantes à assurer la sécurité?
Les forces de l'ordre ont bien assuré la sécurité. Il y a eu des débordements, mais ils ont été maîtrisés. C'est vrai que la violence aujourd'hui s'infiltre dans tous les défilés. C'est ce que nous avons vu à la marche pour le climat. Je crois que beaucoup de nos concitoyens sont extrêmement préoccupés. Cette marche regroupait à la fois des ONG, mais aussi des familles préoccupées par le climat. Et on ne peut que regretter la porosité qui s'est faite sur le terrain avec des black box. La manifestation avait aussi un certain nombre de gilets jaunes en son sein. Donc on voit que c'est compliqué aujourd'hui de savoir qui réellement va participer à une manifestation.
Beaucoup de manifestants se sont plaints de l'usage des gaz lacrymogènes par les policiers. Est-ce que vous trouvez que ce recours devrait être limité?
Alors, je crois qu'il faut le faire évidemment à bon escient. Il est évident que quand on ne veut pas de contact direct et qu'on veut disperser des gens, les gaz lacrymogènes permettent quelque part la dispersion des manifestants. Ils l'ont fait à un moment où les Black Blocs avaient pénétré dans la manifestation. Je suis passée ce matin boulevard Saint-Michel pour venir vous voir. Il y a énormément de vitrines cassées, beaucoup de tags. Et donc, on voit bien qu'il y a eu des dégradations. Je crois qu'à un moment, il fallait intervenir.
Adrien Gindre, sur une autre actualité de la semaine.
Dans les très nombreux dossiers qui vous concernent, il y en a un qui a beaucoup fait réagir cette semaine, c'est la révélation autour de ce test qui a été mené sur au moins 350 personnes atteintes entre autres de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer. Les traitements pour certains de ces malades avaient dû être arrêtés pendant la phase de test. Est-ce que les autorités ont pu identifier l'intégralité des personnes qui ont été participantes à cet essai? Et est-ce qu'on peut dire ce matin que leur santé est indemne et qu'ils sont hors de danger?
On ne peut pas vous répondre encore aujourd'hui. Nous avons effectivement retrouvé une liste de personnes participantes. Les autorités sanitaires recontactent à la fois soit les malades, soit leurs médecins quand ils le connaissent. Et nous avons surtout fait passer le message qu'il convenait pour tous ces malades de reprendre les traitements prescrits par leurs médecins traitants.
Combien sont-ils, Agnès Buzyn, pardon, ces patients dont vous parlez? Combien sont-ils?
Autour de 350. Mais l'enquête est en cours en réalité, donc à la fois l'enquête sanitaire, et moi c'est ma préoccupation principale, vérifier que ces personnes sont en bonne santé, et puis l'enquête judiciaire évidemment, parce que derrière il y a un comportement incroyable. Ce sont des choses extrêmement rares, des essais cliniques sauvages. En France, à ma connaissance, depuis plusieurs dizaines d'années, je n'en ai jamais entendu
parler.
Mais
est-ce qu'on a la garantie qu'il n'y en a pas d'autres en ce moment ailleurs en France ?
Écoutez, il y a eu très vite un lanceur d'alerte, ce qui veut dire que les familles ou les médecins traitants ont tout de suite été, ont pu être alertés par les malades qui exprimaient le fait qu'ils participaient à un nouveau traitement, à un essai sur un nouveau traitement et à qui on avait demandé d'arrêter leurs médicaments habituels. Donc, sincèrement, les choses sont tellement transparentes aujourd'hui dans notre société que j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y en avoir d'autres cachés. Je n'y crois pas. D'ailleurs, ça s'est su très vite et l'enquête est en cours.
Donc, le professeur Joyeux qui explique que ce n'était pas un essai clinique, il ment.
Ah oui. Essayer une molécule qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché sur des patients en leur demandant un accord et en faisant des prises de sang et des tests, ça s'appelle un essai clinique. Et c'est totalement interdit, non seulement par la loi française, mais par les lois internationales.
Et sur le fond, est-ce que cette démarche, l'idée de pouvoir tester de nouveaux traitements sur les maladies et les malades d'Alzheimer et de Parkinson, ne veut pas dans
fond,
un...
Sur le fond, il est très important que les patients français participent à des essais cliniques. La loi est très stricte, l'encadrement est extrêmement strict, ça se fait dans nos hôpitaux. Il faut des déclarations, il faut des assurances, il faut un consentement éclairé des gens. Ces consentements éclairés sont relus par des comités d'éthique dans lesquels les patients eux-mêmes donnent leur avis. Et il faut une transparence totale sur les effets secondaires et les risques. Tout ça est parfaitement encadré, la loi française est très stricte. Et donc, évidemment qu'il faut des essais cliniques. Ils ne vont surtout pas arrêter la recherche sur les médicaments innovants, surtout dans des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou le Parkinson, qui sont des maladies très graves. Mais ce n'est pas du tout ce qui a été fait. On est dans un tout autre registre. On est sur des patients qui étaient mal informés, qui eux-mêmes payaient pour avoir leur traitement, à qui on faisait des prises de sang, à qui on n'a pas expliqué les risques.
Enfin, vous y voyez un comportement sectaire, très rapidement, Agnès Buzyn ?
Possiblement. Nous verrons si, nous verrons si l'enquête le dit. De ma profession de médecin cancérologue, je sais que quand les malades sont très vulnérables, notamment avec des maladies sévères, incurables, ils ont plus tendance à se laisser embarquer par des dérives sectaires.
Donc un abus de faiblesse.
La MIVILUDE, c'est-à-dire la mission de lutte contre les dérives sectaires du Parlement, a toujours pointé du doigt que c'est dans le monde de la santé que ces dérives étaient les plus fréquentes. Et donc je dis aux patients français, faites confiance à votre médecin généraliste, faites confiance aux équipes hospitalières qui vous prennent en charge. Quand ils vous proposent un essai, il est parfaitement encadré légalement. Il y a des assurances de transparence. Par contre, n'écoutez pas tous les charlatans qui peuvent vous promettre le traitement miracle, parce que c'est là où on va à la catastrophe.
Et vous allez saisir la MIVILUDE de la lutte contre les sectes, justement ?
Je pense qu'elle se saisira elle-même. En tous les cas, aujourd'hui, l'enquête suit son cours.
Un procès qui va s'ouvrir, puisque l'on parle de médicaments, l'un des plus grands scandales sanitaires français, le procès fleuve du Mediator, un médicament des laboratoires Servier, qui est tenu pour responsable de centaines de morts, un médicament qui a été retiré du marché fin 2009. Guillaume Roquette.
Oui, est-ce que... À votre connaissance, il y a d'autres médicaments qui pourraient faire l'objet de découvertes comme celui du Mediator. Est-ce qu'il y a d'autres scandales sanitaires de ce type qu'on n'aurait pas encore découvert ? Est-ce qu'il y a des soupçons ?
Il y a des effets secondaires de tous les médicaments. Le Mediator est particulier. C'est un scandale parce que, et c'est la raison pour laquelle il y a un procès pénal, il y a des chefs d'accusation vis-à-vis d'un certain nombre de personnes qui sont soupçonnés d'avoir caché des informations sur la dangerosité du médicament et surtout sur le fait qu'il était utilisé en dehors de son indication. Il était largement utilisé comme coupe-faim pour faire maigrir. Et donc tout cela, le procès va dire la réalité de ces faits, mais c'est la raison pour laquelle moi je me bats pour qu'on essaye de réduire au maximum l'usage des médicaments dans notre pays. Les Français consomment énormément de médicaments, aucun médicament peut se targuer de n'avoir aucun effet secondaire ou alors il est inefficace.
Mais des effets secondaires aussi graves, c'est ça qui inquiète.
Les effets secondaires aujourd'hui, les essais cliniques justement repèrent des effets secondaires qui surviennent dans les quelques premières années d'utilisation. Et en fait, maintenant, nous avons des procédures pour suivre sur le long terme l'effet des médicaments. Nous regardons notamment pour des médicaments qui sont déjà sur le marché depuis 10-15 ans s'il n'y a pas de nouveaux essais secondaires, effets secondaires qu'on découvrirait
par les bases. Et là, on informe les médecins
au fur et à mesure de ça. Alors, on demande au médecin de signaler tout effet secondaire inattendu sur un médicament. Maintenant, les patients eux-mêmes peuvent déclarer à l'agence du médicament un effet secondaire auquel ils ne s'attendent pas, qui n'est pas décrit dans la notice du médicament. Et donc ça, c'est la loi de 2011 qui permet sur la transparence sur le médicament. C'est la loi qui a été promulguée après l'affaire Mediator. Elle permet à tous les Français de déclarer eux-mêmes leurs effets secondaires. Et puis, on a renforcé la pharmacovigilance. Et surtout, on fait des études sur la base de données de l'assurance maladie pour voir si des gens qui prennent un médicament font des effets secondaires particuliers.
Agnès Buzyn, c'est quand même assez inquiétant ce que vous dites, c'est-à-dire que des millions de Français qui consomment des médicaments, ils doivent éventuellement anticiper des effets secondaires à plus long terme.
Non, je n'en sais rien. Je dis qu'aucun médicament aujourd'hui ne peut se targuer de n'avoir aucun effet secondaire.
Sinon,
donc,
c'est qu'il est
pas prenons efficace. Les médicaments à bon escient, prenons-les quand ils sont indispensables. Je sais à quel point, par exemple, l'usage des antibiotiques dans notre pays est hors norme par rapport aux autres pays européens. Donc nous avons tendance, à la fois les médecins, à la fois les patients, à soit prescrire beaucoup, soit demander des ordonnances. Un malade en France aujourd'hui s'estime mal écouté, mal pris en charge quand il sort de chez son médecin sans ordonnance. Et mon travail aujourd'hui, c'est de restreindre l'usage des médicaments aux médicaments indispensables, prescrits sur la bonne indication et éviter justement toutes les prescriptions inutiles.
Il y aura une restriction supplémentaire sur l'usage des antibiotiques. Est-ce que vous allez lancer une nouvelle campagne? Est-ce que vous allez demander aux médecins d'en prescrire moins?
Oui, nous travaillons sur des restrictions de prescription des antibiotiques. Notamment, nous disposons aujourd'hui de tests qui permettent de savoir si une angine est virale ou bactérienne. Nous souhaitons rendre ces tests accessible dans les pharmacies, plus facilement chez les médecins, de façon à ce que les médecins ne prescrivent d'antibiotiques que s'il s'agit d'une angine bactérienne et pas d'une angine virale. Ça va considérablement réduire l'usage des antibiotiques. Je me bats aussi pour les somnifères, pour tout un tas de
médicaments.
Vous
avez un calendrier
Oui, c'est un travail de long terme, évidemment, que je fais avec les sociétés savantes, les médecins, les prescripteurs.
Mais c'est la responsabilité des médecins aujourd'hui?
Je pense qu'ils sont conscients de la nécessité de prescrire moins. Il y a une demande sociétale. Il y a clairement une demande sociétale. Je vois à quel point, et je l'ai vécu en tant que médecin, à quel point, quand on dit à un malade « ne vous inquiétez pas, ça n'est pas grave, ça va passer tout seul », eh bien, les patients ont la sensation d'être mal pris en charge ou qu'on nie leurs symptômes. Or, on ne nie pas la réalité d'une fièvre dans une angine virale. On ne nie pas qu'il y a une angine et
donc
qu'il y a de la douleur.
Donc, c'est toujours automatique en France. Quoi.
Mais
c'est un
ça
peu
reste,
ça que vous
on a des consommations qui sont 4 à 5 fois supérieures de la moyenne européenne.
Mais dans votre esprit, ce type de politique pour restreindre l'usage du médicament, c'est simplement incitatif ou est-ce qu'on pourrait imaginer, quand il y a abus, par exemple, une absence de remboursement?
Non, nous n'en sommes pas là parce qu'à l'échelon individuel, il est très difficile de savoir si un médicament a été prescrit à bon escient ou pas. Mais il y a vraiment une politique qui se déroule aujourd'hui, qui se décline et à laquelle je travaille avec toutes les sociétés savantes, avec les médecins, sur vraiment le bon usage du médicament, la restriction aux indications aux indications et surtout mon désir c'est de faire comprendre au grand public que quand on peut éviter de prendre un médicament, quand il n'est pas utile, il faut surtout éviter parce qu'aucun médecin ne pourra jamais promettre qu'un médicament n'a pas d'effet secondaire.
Adrien Gendre.
Puisqu'on est sur les médicaments, parlons de ceux qui sont en pénurie. Le Premier ministre s'est exprimé à ce sujet cette semaine. Demain vous installez vous-même un comité de pilotage. Il y a des sanctions qui vont être prévues, mais est-ce que vous nous dites également que vous allez publier la liste des laboratoires pharmaceutiques qui organiseraient cette pénurie pour des raisons commerciales? En fait, on a du mal à comprendre jusqu'où vous allez aller et jusqu'où les laboratoires le font avec une idée financière derrière la tête.
Alors, il y a effectivement des pénuries de médicaments. Là, on parle de médicaments indispensables, prescrits à bon escient.
Ça concerne des millions de Français.
Et ça concerne des millions de Français. Et les pénuries de médicaments ont été multipliées par 4 ou par 5 depuis quelques années. Il n'y a pas un Français qui n'a pas été dans cette situation d'aller à sa pharmacie et qu'on lui demande d'attendre. Et donc, Nous avons prévu 3 axes de travail. D'abord, une meilleure information et des professionnels et des patients pour comprendre pourquoi il y a une pénurie. Parce que les pénuries sont d'origine très variée. Parfois, le problème est simple à régler. Il suffit d'importer d'un autre pays. Parfois, le problème est très complexe parce que c'est une usine de fabrication qui a eu un incendie et la chaîne de fabrication va mettre un certain temps pour redémarrer. Et donc, on voit bien qu'en fonction des situations, on a besoin de mieux faire comprendre aux gens pourquoi le médicament est manquant.
Mais ensuite, il faut travailler... du fait du laboratoire par un acte volontaire et pas simplement par un acte extérieur.
Alors ce sont souvent les distributeurs qui peuvent choisir de distribuer dans d'autres pays où le prix du médicament est supérieur. Donc ça, nous allons effectivement lutter contre cela et il y aura des sanctions. Nous travaillons sur la sécurisation de toute la chaîne du médicament, notamment lorsqu'il n'y a qu'une seule usine qui produit un médicament pour l'Europe entière ou pour le monde entier, nous leur demandons d'anticiper les problèmes, de mieux réfléchir à comment diversifier la production.
Des laboratoires pharmaceutiques dont vous savez qu'ils ne fournissent pas assez de médicaments parce qu'ils estiment que ce n'est pas suffisamment bien remboursé, qu'ils ne gagnent pas assez d'argent.
Alors ça existe pour des médicaments très anciens et très peu utilisés. Et là, nous avons un vrai problème pour que les industriels continuent de fabriquer des médicaments extrêmement anciens.
Ça concerne quel laboratoire ?
Alors, ça dépend des laboratoires. Vous savez le nombre de médicaments qu'il y a. Donc, à chaque fois, les problèmes sont différents d'un laboratoire.
Tous les laboratoires, c'est minoritaire.
C'est très minoritaire. Et là, je pense prendre des initiatives à l'échelon européen. J'ai commencé à en discuter avec mes homologues européens. Nous allons en discuter au prochain Conseil des ministres européens pour savoir comment faire en sorte que ces médicaments utiles, très anciens, très peu rentables pour les industriels, continuent d'être produits sur le sol.
Mais il y a aussi des vaccins qui ne sont pas disponibles, très concrètement. Alors là, on se dit, bien, les laboratoires ne les produisent pas parce que ça ne leur rapporte pas assez. Ils pensent d'abord à leur profit. Et vous êtes très attaché aux vaccins, Agnès Buzyn.
Alors, les vaccins, ça coûte cher à produire, c'est assez peu rentable. Et quand, par exemple, un pays comme l'Inde décide tout d'un coup qu'un vaccin rentre dans le calendrier vaccinal, du jour au lendemain, un industriel qui va produire un vaccin se retrouve avec un marché qui va doubler ou tripler à cause du marché indien. Et donc, on voit bien les tensions sur les lignes de production. Donc, moi, je demande aujourd'hui à chaque industriel de sécuriser sa chaîne de fabrication, d'anticiper les problèmes. Et lorsqu'il décide de ne plus commercialiser un médicament, il faut qu'il nous prévienne suffisamment à l'avance pour que l'on puisse prendre des mesures correctives. Il y aura des sanctions s'ils ne le font pas. Il y aura des sanctions aussi si volontairement un industriel ne met pas en œuvre son plan de gestion des risques, puisqu'ils doivent écrire pour chaque médicament leur plan de gestion de risque, qu'ils doivent le donner à l'agence du médicament. Donc, nous avons décidé d'aller un cran plus loin avec le
produit. Pourquoi ne leur dites pas, Agnès Buzyn, de produire en France ? Vous nous dites, en fait, qu'on est quand même dépendant des Indiens pour certains vaccins. Est-ce qu'il ne faut pas dire aux
laboratoires ? La pénurie peut toucher...
Il faut produire en France.
La pénurie peut tout à fait toucher des médicaments produits en France. Je vous donne l'exemple de la dépakine. Il n'y a qu'une seule usine quasiment pour 95% de la production mondiale. Elle est en France. Il se trouve qu'elle a eu des rejets dans l'environnement qui ont fait qu'on a fermé cette usine de production de la dépakine. Elle était en France.
Ça soigne quoi déjà, la dépakine ?
Pardon,
qu'est-ce que ça soigne ?
Ça sert, c'est un médicament anti-épileptique vraiment très important. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de ce médicament. Il se trouve que l'usine qui produit 95% de la production mondiale est en France. Et pourtant, nous avons des soucis. Oui, il faut produire en France ou en Europe, mais ça ne règle pas le problème d'une usine qui dysfonctionne. Donc, nous avons tout un tas de solutions à travailler avec les industriels. Par contre, le Premier ministre a souhaité qu'on aille plus loin dans les sanctions pour les industriels qui ne jouent pas le jeu, car il peut y en avoir, et ça, c'est inadmissible.
Autre sujet,
tout petit point, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il n'y aura plus de pénurie de vaccins en France ou de médicaments grâce aux mesures que vous allez prendre ?
Ah non, je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends des mesures pour limiter au maximum ces pénuries. Nous avons notamment imposé aux industriels de faire des stocks pour les médicaments indispensables, comme les antiépileptiques, comme les antiparkinsoniens, comme les corticoïdes. On leur demandera des stocks de 4 mois. Donc, s'il y a une pénurie, le marché français sera autonome pendant 4 mois. Mais... par exemple, quand c'est un défaut de production de la matière première parfois se trouve en Chine, en Inde, parfois même en Europe, eh bien nous ne pouvons pas aujourd'hui affirmer qu'il n'y aura plus de pénurie. Par contre, il ne faut pas que les patients français soient pénalisés par rapport aux autres patients et il faut que les industriels prennent des mesures d'anticipation en cas de pénurie.
Alors, autre dossier le conflit des urgences, Guillaume Roquette.
Oui, vous avez annoncé des mesures importantes, y compris en termes de budget, pour régler ces conflits des urgences. Et pourtant, la grève continue. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le mouvement n'est plus légitime ? Est-ce qu'il y a une opposition de nature politique au gouvernement ?
Le mouvement de fatigue des soignants dans les urgences, il est légitime. L'activité n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Je ne vais pas dire que la cause de leur mouvement n'est pas légitime. Elle est tellement légitime que j'ai pris des mesures structurelles pour vraiment remédier à cette crise des urgences et que les urgences se recentrent sur l'urgence et ne soient plus la porte d'entrée.
Le mouvement qui continue est aujourd'hui encore légitime.
Il peut être un peu politique. Il y a derrière ce mouvement notamment certains membres du collectif Interurgence qui sont des membres du syndicat Sud Solidaire, dont on sait que c'est un syndicat qui peut être assez dur.
Et notamment son leader, Hugo Huon, je rappelle ce qu'il disait, il arrive que des gens meurent parce que des soignants sont débordés. Voilà ce que dit Hugo Huon, collectif Interurgence, Agnès Buzyn.
Écoutez, nous avons eu le cas d'une femme qui a été oubliée
à la
Riboisière, c'était il y a un an. Quand des événements de ce type-là arrivent, l'hôpital, le service, a l'obligation de le déclarer.
Mais c'était un cas unique ? Est-ce qu'il était médiatique ?
En tous les cas, dans les cas qui sont déclarés, et c'est contre la loi de ne pas déclarer un événement indésirable qui aboutit à un décès. Aujourd'hui, la loi oblige les médecins et les hôpitaux à déclarer tout événement indésirable qui aboutit à un décès.
Mais donc vous êtes d'accord avec lui quand il dit « il arrive que des gens meurent parce que des soignants sont débordés ».
Il y a eu, vous savez, sur 20 millions de passages aux urgences,
Il n'y a
pas de risque zéro. Et il ne faut pas que cette pression, cette charge mentale pèse sur les soignants. C'est la raison pour laquelle je souhaite impérativement les aider à restructurer l'arrivée dans les urgences de façon à ce que tous les gens qui aujourd'hui sont aux urgences alors qu'ils pourraient être soignés ailleurs, nous savons que ça représente entre 20 et 30% des passages, puissent très rapidement être pris en charge par le secteur libéral.
Est-ce qu'il y a, Agnès Buzyn, encore une marge de négociation avec eux aujourd'hui ? Ou est-ce que, est-ce qu'il y a encore, avec ces urgentistes, une marge de discussion et de négociation ? Ou est-ce que vous considérez, vous, avoir déjà tout dit, tout annoncé, et que maintenant, c'est une question mise en œuvre ?
Ils font partie de tous les groupes de travail que je mets en place. Ils font partie des réunions d'information que je fais au ministère. Donc, la porte du ministère, elle est ouverte. On discute. Mais ils avaient une revendication que leur charge soit reconnue. J'ai, dès le mois de juillet, permis le versement d'une prime de 100 euros net par mois, une prime pérenne, c'est pas un mois, c'est tous les mois, à partir du mois de juillet, pour reconnaître la prise de risque de ces soignants.
Mais j'ai encouragé d'autres grévistes, du coup, parce que certains se sont dit, nous aussi, on doit être mieux rémunérés.
À la fois, oui, et à la fois, certains services ont arrêté la grève. Je pense à Amiens, par exemple, qui a arrêté la grève la semaine dernière. Il y a des services qui rentrent en grève, d'autres qui l'arrêtent.
À la Fronde, quand ils prennent l'ampleur, près de 2300 personnels de santé viennent de fonder le collectif Interhôpitaux et ils vous appellent à des états généraux de l'hôpital public. Voilà l'appel national qu'ils vous lancent aujourd'hui.
Alors l'hôpital va mal, c'était le constat que j'avais fait en arrivant. Et c'est parce que l'hôpital était quelque part la victime des dysfonctionnements du système de santé que j'ai fait une loi de refondation du système de santé, une loi de transformation en profondeur. Elle a été votée au mois de juillet au Parlement. La restructuration de la médecine de ville est en train de se faire, avec des engagements qui ont été faits par la médecine libérale, notamment d'assurer des consultations sans rendez-vous. C'est un des défauts majeurs aujourd'hui de la médecine libérale, c'est la difficulté qu'ont nos concitoyens à accéder à des consultations sans rendez-vous, et c'est la raison pour laquelle ils vont aux urgences. Nous sommes en train de salarier beaucoup de médecins généralistes dans les zones sous-denses. Nous sommes en train de restructurer l'hôpital public.
Vous ne vous entendez pas, Agnès Buzyn, c'est ça ?
Est-ce que c'est non, pas... ce que je comprends...
Quand vous voyez qu'en plus les laboratoires vont être en grève à partir de demain et qu'ils vont orienter vers les urgences les patients qu'ils ne recevront pas l'après-midi, est-ce que c'est pas pour vous un inquiétant et que vous n'êtes pas en train de jouer le pourrissement de la situation ?
Non, moi maintenant, ce qui m'importe, c'est la mise en œuvre. En réalité, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils ne voient pas encore la réalité des effets de ces mesures. Tout le monde s'accorde. Et si vous regardez bien les prises de position après la loi santé et le plan Ma Santé 2022, tout le monde, les syndicats de médecins, les fédérations hospitalières, les syndicats de toutes les professions de santé, les étudiants en santé, tout le monde a dit que ces mesures étaient indispensables et qu'elles allaient dans le bon sens. Il n'y a pas eu de refus de Ma Santé 2022. D'ailleurs, la loi a été adoptée entre le Parlement et le Sénat. Après une lecture, ils se sont mis d'accord en CMP conclusive, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de plusieurs passages au Parlement. Tout le monde est d'accord, ça va dans la très
donc
bonne direction.
Donc cette grève doit cesser. Vous dites aujourd'hui.
Non, je dis maintenant, il faut des effets sur le terrain. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé 3 groupes de travail sur les urgences. La semaine dernière, il y a encore un groupe de travail cette semaine. Et j'ai demandé que les mesures soient opérationnelles avant le mois de décembre. Pour certaines, notamment la gestion des lits d'aval, la nécessité de réouvrir des lits en aval des urgences, j'ai demandé que les services me fassent remonter leurs besoins avant les épidémies de grippe du mois de décembre.
Il y a une mesure concrète proposée pour désengorger les urgences par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui est de créer un SAMU infirmier où des infirmiers pourraient prodiguer des soins d'urgence. C'est une bonne idée ou...
C'est quelque part déjà dans les propositions, puisque en réalité, nous allons faire des délégations de tâches aux infirmiers pour qu'ils prennent en charge un certain nombre de soins urgents,
sur
comme
place,
les sutures.
À l'hôpital.
Sur place, mais pas que sur place à l'hôpital. Par exemple, nous avons, dans les mesures qui ont été annoncer, proposer que les kinésithérapeutes, par exemple, puissent prendre en charge directement des entorses sans que les gens soient obligés de passer aux urgences et à une prescription. Nous sommes en train de favoriser aussi le passage direct en pharmacie pour tout un tas de délivrances de médicaments d'urgence, pour éviter ces passages aux urgences. Donc en réalité, ce que propose Mme Pécresse est totalement déjà dans les tuyaux.
Alors elle l'entendra peut-être si elle nous écoute. Autre sujet qui intéresse tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, eh bien c'est la cigarette. Vous avez augmenté le prix, plus 50 centimes, ce sera en novembre 2019 à nouveau, donc dans quelques semaines. L'horizon du paquet de tabac, c'est 10 euros fin 2020. Irez-vous plus loin que les 10 euros d'ici la fin du quinquennat ?
Bon, aujourd'hui, ça n'est pas dans les tuyaux. J'avais annoncé une forte hausse parce que nous savons que c'est la hausse du prix du tabac qui est le meilleur moyen de faire en sorte que les gens arrêtent de fumer, et notamment les jeunes. Les résultats sont là. Nous avons près de 2 millions de fumeurs en moins depuis que nous sommes arrivés aux affaires. C'est énorme, c'est 1 500 000 fumeurs en moins, exactement. C'est grâce au prix du tabac, mais c'est tout un tas de mesures, notamment les patchs remboursés par la Sécurité sociale qui permettent d'arrêter de fumer. C'est donc des mesures d'aide à l'arrêt du tabac qui favorisent cela.
Et alors, justement, vous dites qu'il y a 2 millions, vous dites, de fumeurs
1,5 million
vous nous dites.
De fumeurs en moins depuis 2 ans.
Depuis 2 ans, d'accord.
Donc, vraiment, on voit notamment chez les jeunes, c'est très sensible chez les jeunes.
Mais ils consomment beaucoup d'e-cigarettes.
Une des nouvelles formes, c'est cette fameuse cigarette électronique. On voit beaucoup de gens vapoter, y compris à l'intérieur des lieux publics. Est-ce que vous ne dites pas, attention, c'est notre prochaine bombe à retardement? On voit qu'aux États-Unis, il y a des réflexions sur ce qu'il faut interdire, autoriser, que les jeunes, d'ailleurs, avec les cigarettes électroniques aromatisées, accèdent peut-être très facilement à ce type de consommation. Est-ce que vous avez dans le viseur des mesures restrictives, voire d'interdiction?
Alors, sur la cigarette électronique, nous avons pris les mêmes mesures que pour la vraie cigarette vis-à-vis des jeunes. Elle est interdite à la vente aux moins de 18 ans. Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les mêmes lieux qu'il est interdit de fumer. Donc, en réalité, la France s'est dotée d'une législation beaucoup plus sévère sur la cigarette électronique que les autres pays.
Elle est bien appliquée pour la cigarette électronique.
Il y a une forme de tolérance parfois dans certains lieux, mais en réalité, nous n'avons pas voulu faciliter le vapotage parce que c'est un outil pour l'arrêt du tabac. C'est un outil utile quand les gens arrêtent vraiment de fumer, mais souvent...
Et est-ce que ce n'est pas aussi un outil pour entrer dans le tabac pour certains jeunes?
Alors, ça l'est aux États-Unis, clairement. Aux États-Unis, on a vu un engouement des jeunes vis-à-vis de la cigarette électronique. Moi, je rappelle que c'est interdit à l'école, c'est interdit au lycée.
Mais est-ce que vous irez plus loin dans les restrictions d'utilisation?
Aujourd'hui, c'est interdit à la vente aux moins de 18 ans. La question, c'est d'interdire les arômes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même situation que les États-Unis. Les États-Unis laissent les gens faire leur propre mélange. On voit qu'il y a eu des cas d'événements indésirables très graves avec des morts parce que les gens utilisaient des huiles essentielles avec une toxicité pulmonaire. Aujourd'hui, en France, la législation est beaucoup plus rigide et les produits... Nous n'avons pas d'alerte aujourd'hui sanitaire particulière.
Sur les arômes, est-ce que vous y pensez, les interdire tout de même ?
Non, pour l'instant, il n'y a rien dans les tuyaux. Je suis en train de regarder... Nous faisons un état des lieux et nous avons fait un observatoire pour qu'on ait des remontées d'informations sur qui les utilise. Est-ce qu'il y a des risques sanitaires? Il y a une vigilance, une pharmacovigilance, si je puis dire, ce n'est pas un médicament, mais tout comme une pharmacovigilance qui a été mise en place par l'Agence française de santé publique, de façon à bien savoir qui l'utilise, comment, et savoir s'il faut modifier la législation. Et je dirais, comme toute médicaments ou produits, si on peut éviter d'en consommer, il peut y avoir des effets secondaires à long terme. Nous ne savons pas, en fait.
On vous a entendu sur ce sujet. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury d'Agnès Buzyn. À tout à l'heure.
Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Adrien Jean de TF1 LCI et Guillaume Recotte du Figaro. Agnès Buzyn, à propos de la sécurité sociale, les échos ont hier indiqué que son déficit serait de l'ordre de 5 milliards d'euros pour 2020. Est-ce que vous nous le confirmez ?
Alors, les chiffres exacts seront connus lors de la commission des comptes de la sécurité sociale, donc je les présenterai le 30 septembre prochain, donc vous me laisserez évidemment...
Mais ça sera au-delà des 150 millions que vous aviez annoncés. Est-ce que là on est à 5 milliards, notamment peut-être à cause des mesures gilets jaunes?
Les mesures d'urgence économique et sociale ont pesé sur les comptes de la sécurité sociale, puisqu'il y a eu un manque de recettes liées à la désocialisation, défiscalisation des heures supplémentaires. Donc, en réalité, nous savions avec les mesures d'urgence, que les comptes de la sécurité sociale seraient dégradés. Et puis, la croissance est moins forte qu'attendue. Et donc, ça a pesé sur les comptes de la sécurité sociale. Mais les chiffres, je les réserve aux partenaires sociaux.
Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des frictions entre vous et Gérald Darmanin, le ministre du Budget, justement, pour compenser ces mesures sociales et économiques et pour qu'ils ne viennent pas grever le budget de la sécurité sociale?
Donc les travaux sont en cours au sein du gouvernement. Mon objectif, c'est
nous
de ramener...
C'est une manière de biaiser.
Mon objectif, c'est de ramener les comptes de la sécurité sociale à l'équilibre. Mm-hmm. C'était un engagement que j'avais pris.
Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Mm.
Non, mais je...
Ce sont des négociations.
Nous visons tous la même chose. C'est très important pour les Français de savoir que la sécurité sociale est bien gérée. La sécurité sociale, c'est le bien commun. Ouais. Tous les Français savent de quoi on parle quand on parle de la sécurité sociale. Donc leur dire qu'il n'y a pas de déficit, pas de dette, et qu'on arrive à rembourser tout ça et qu'on est à l'équilibre, c'est très important. Ça prouve qu'on est en responsabilité et qu'on fait attention au bien commun des Français. Donc, c'est mon engagement en tant que ministre.
La sécurité sociale qui va prendre en charge le premier parcours de soins après un cancer, c'est cela, c'est pour 2020?
Oui, ça fait partie des très belles mesures de ce nouveau projet de loi de la sécurité sociale. J'y tenais quand je présidais l'Institut national du cancer et lorsque j'avais écrit le plan cancer, je voulais que les personnes après un cancer puissent être mieux accompagnées. Et nous avons une mesure là dans le projet de loi qui vise à donner un forfait de prise en charge pour les personnes qui sont à distance de leur cancer, que ce soit un accompagnement psychologique, diététique, de l'activité physique adaptée. On sait à quel point c'est important pour prévenir les rechutes. Et donc ce
combien
sera...
vous allez mettre dans cette...
Les chiffres seront rendus publics pareil, en temps et en heure, monsieur Sportouche. Par contre, dans les mesures très importantes aussi, il y a un parcours de soins dédié aux enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. J'y tiens aussi, ils sont très mal suivis, très mal soignés. Et donc on va faire en sorte qu'ils voient des médecins et qu'ils soient mieux suivis sur le plan psychologique notamment.
Ça va concerner combien de personnes au total?
Aujourd'hui, il y a 300 000 enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, que ce soit en établissement ou dans des familles d'accueil. Et ils ont un parcours de santé très erratique, très mauvais. Et donc, nous avons sécurisé cela avec un forfait. Il y a des mesures sur les aidants, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Madame la Ministre, Claudie Cullac, présidente du collectif Je t'aide. Nous avons pris acte avec satisfaction de cette première mesure d'indemnisation du congé de proche aidant à hauteur de 40 euros par jour. Maintenant, qu'en est-il du statut d'aidant? Un statut donne des droits, comme le droit à la retraite. Nous connaissons des femmes qui arrêtent de travailler durant 8 ans pour s'occuper d'un enfant qui a un cancer qui récidive. Est-ce normal qu'étant donné qu'elle n'aura pas cotisé durant 8 ans, sa retraite soit amputée? Ne faudrait-il pas aller plus loin? Merci pour votre réponse.
Agnès Buzyn.
Merci Madame Dulac. Nous travaillons avec Sophie Cluzel sur une feuille de route pour les aidants, les proches aidants, qu'ils soient familiaux ou pas. C'est très important de reconnaître ces 9 ou 10 millions de Français qui au quotidien aident une personne proche et qui ont très peu de droits, il est vrai. Donc on a commencé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, par reconnaître qu'ils ont besoin de congés indemnisés qui leur permettent à un moment donné de trouver une place en institution, d'accompagner quelqu'un qui se dégrade, d'organiser leur vie. Aujourd'hui, ils ont le droit à 3 mois de congés sans solde. Là, nous indemnisons ces 3 mois de congés sans solde, donc c'est dans une limite de 3 mois, mais il y aura une indemnisation. Au-delà de ça, j'ai souhaité, dans les concertations que Jean-Paul Delevoye a fait sur les retraites, que la question des aidants y figure. Et il y a, d'ailleurs, dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, le fait qu'on doit probablement donner des points ou réfléchir à prendre en compte le fait qu'une mère de famille, par exemple, s'arrête pendant 20 ans pour prendre en charge un enfant en situation de handicap, qu'elle ne confie pas en institution, elle arrête de travailler, elle n'a aucun droit à la retraite, et nous devons travailler à cela. Les travaux sont en cours, je suis totalement en phase. Alors je ne sais pas si ça doit s'appeler un statut. En tous les cas, prendre en compte que c'est très particulier de s'arrêter pour prendre en charge quelqu'un qu'on aime, et que ça doit être reconnu comme tel.
Alors, autre sujet d'actualité face auquel vous allez vous retrouver confronté, c'est l'aide médicale d'État, Guillaume Roquette.
Oui, que cette aide qui permet d'avoir un accès gratuit aux soins pour les étrangers, même en situation irrégulière. Les dépenses de l'AME ont beaucoup augmenté, elles atteignent 1 milliard d'euros. Certains parlent d'abus. Est-ce que vous, dans votre vie professionnelle, de médecin hospitalier, vous avez constaté des abus dans cette aide médicale d'État?
Oui, alors l'aide médicale d'État a été faite effectivement pour les étrangers en situation irrégulière, pour des raisons humanitaires, puisque c'est un droit international, et pour des raisons de santé publique, pour que les gens ne se promènent pas dans notre pays avec des maladies qu'ils ne soignent pas, qui sont éventuellement contagieuses.
Et y a-t-il des abus ?
Je vais y venir, je termine le raisonnement. Et donc, l'idée est de les traiter le plus tôt possible pour qu'ils n'arrivent pas à l'hôpital à un moment où la maladie est très avancée, où ça coûte très cher, et où en fait, ils ont peut-être contaminé d'autres personnes. Alors, il y a des abus, et il y a des fraudes. Et ça, j'y travaille depuis 2 ans, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ma responsabilité, c'est le bien commun des Français.
On est capable de les chiffrer, ces fraudes et ces abus?
Non, c'est très difficile, et j'ai démarré un travail il y a 2 ans, qui prend en compte à la fois la nécessité absolue de préserver l'aide médicale d'État. J'entends des gens qui veulent les réserver aux soins urgents.
Oui. Non, et ça existe déjà. Les soins... Valérie Pécresse, par exemple, vous faites allusion peut-être entre elles, dit on peut restreindre aux soins... qui sont les plus nécessaires.
Ça, c'est ce que propose souvent le Front National. En réalité, c'est exactement cela qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que si on restreint l'aide médicale d'État uniquement aux soins urgents, d'abord, ça existe déjà. Quand vous avez un accident de voiture aujourd'hui et que vous êtes un étranger en situation irrégulière ou n'importe qui, vous êtes soigné. C'est ce qu'on appelle la prise en charge pour soins urgents. Donc ça existe déjà. Mais ça voudrait dire qu'on laisse déambuler des gens avec des pathologies chroniques qui, à l'arrivée, vont être pris en charge dans le cadre de l'urgence et vont coûter 2 fois plus cher aux hôpitaux français.
Donc vous n'allez pas toucher au panier de soins, c'est ce que vous nous dites.
Non, je regarde le panier de soins comme tout le monde. D'ailleurs, il y a eu des évolutions du panier de soins depuis 20 ans. Il y a des évolutions du panier de soins. On peut regarder s'il y a des actes qui ne sont pas des actes nécessaires. Donc ça, c'est un travail de nettoyage.
Mais on nous dit qu'il y a des filières d'Albanais,
Djuria. Voilà ce qu'on entend. Et donc, je reviens sur les fraudes. Il y a des abus, il y a des fraudes. Donc, depuis 2 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai restreint le nombre de caisses de sécurité sociale qui donnent l'aide médicale d'État à 3 caisses. Avant, on pouvait aller dans toutes les CEPAM, dans toutes les caisses primaires d'assurance maladie, demander de l'aide médicale d'État. Il faut être depuis 3 mois sur le territoire et être sous un seuil de ressources. Aujourd'hui, je l'ai centralisé pour pouvoir voir s'il y a des filières, pour pouvoir voir quel est le profil des gens qui y accèdent, quel est le type de soins qui sont consommés. J'ai demandé un rapport de l'IGAS, de l'IGF, donc des inspections, pour savoir exactement quels sont les soins consommés. Aujourd'hui, ce sont essentiellement, pour la grande majorité, des soins hospitaliers. 70% concernent des maladies très graves. Je veux voir si là-dedans, il y a des abus ou des fraudes. Ça, c'est mon travail. Je suis médecin, je sais exactement ce qui est important de préserver. Il y avait une tribune dans le JDD ce matin de médecins.
800 médecins.
J'aurais pu la signer. J'aurais pu la signer.
Mais il y a aussi des médecins à l'étranger, Agnès Buzyn. Or, ce dispositif n'existe pas. Certains disent que ça crée un appel d'air, des gens qui viennent se soigner en profitant de ce système.
Alors, il y a d'autres accès aux soins que l'on regarde également. Des accès aux soins via la CMU. Et donc, on regarde aussi qui accède à la CMU, ce sont notamment les demandeurs d'asile qui peuvent accéder à la CMU. Donc tout ça est mis à plat. Moi, je ne veux pas de débat.
Il y aura idéologique. Des restrictions, par exemple, sur la couverture maladie universelle complémentaire ou le RSA.
Tous les chiffres seront donnés pour le débat qui est prévu le 30 septembre au Parlement.
Sur l'immigration.
Les chiffres exacts seront donnés parce qu'il faut arrêter les fantasmes. faut arrêter les fantasmes.
Mais comme après avoir fait Guérine, par exemple, chez vous, qui parlait de prothèse mammaire.
Il s'est trompé. Il n'y a aucun soin esthétique dans l'aide médicale d'État. Il n'y a, par exemple, aucun médicament remboursé à 15%. Il n'y a pas les soins dentaires ou d'optique.
Mais s'il y a aussi peu d'abus, pourquoi est-ce qu'on atteint 1 milliard d'euros à ce moment-là de dépenses pour la
Alors, mais en réalité, le coût moyen, donc 300 000 personnes aujourd'hui ont accès à l'aide médicale d'État. Ça représente un coût moyen par personne de l'ordre de 2600 euros par an. C'est à peu près aussi ce que dépense la majorité des Français. L'augmentation du budget est liée au fait qu'il y a eu plus de demandeurs, entre 1% en plus entre 2017 et 2018 et 1% en plus entre 2016 et 2017. Donc il y a une augmentation du nombre de personnes en situation irrégulière, mais le volume moyen dépensé augmente moins vite que le volume moyen dépensé par les Français qui sont à la sécurité sociale.
Mais est-ce que ce n'est pas justement le président de la République, le gouvernement et la majorité qui ont là ouvert la boîte de Pandore en voulant mettre l'immigration?
C'est très bien. On va tout poser sur la table.
Ouais.
On va être à la fois humain et pas naïf. Humain parce que c'est dans l'ADN de ce mouvement. Et vous savez à quel point j'ai toujours défendu l'aide médicale d'État pour qu'elle ne se restreigne pas uniquement à l'urgence, parce que je pense que c'est très important de soigner les gens tôt, au bon moment, pour éviter des dégradations. Et ça, il n'y a pas un médecin qui dira le contraire. Et par ailleurs, pas naïf, parce qu'il y a des fraudes, parce qu'il y a des abus. Et ça,
oui, mais on
ça, ça c'est la bonne dépense publique.
La République qui en parle en début de semaine, devant les parlementaires de sa majorité, vous trouviez que c'était le bon moment pour le faire. Le même président qui, il y a deux ans, disait que l'immigration était une chance pour la France. Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer le rôle de son peut-être probable adversaire de 2022, c'est-à-dire le Rassemblement National et Marine Le Pen?
C'est aussi une chance pour la France, bien sûr. Il y a énormément de talents qui nous rejoignent et nous en avons besoin. Et donc, tout ça est vrai. Justement, c'est pour ne pas avoir un discours binaire, simpliste. C'est arrêter de prendre les Français pour des gens qui ne voudraient pas...
Pour des bourgeois qui ne comprennent pas, c'est ça par exemple, comme l'a dit le président de la République
Ni bourgeois, ni des gens qui n'ont pas de cœur. En réalité, il y a partout des gens qui ont du cœur et partout des gens qui veulent savoir ce qui se passe réellement dans notre pays, qui nous demandent d'être aux responsabilités, en responsabilité, pas naïf, et totalement dans notre rôle.
Alors, question simpliste,
d'une terre d'asile.
Peut-être binaire. Est-ce que l'objectif de ce débat, c'est de mettre en place une politique pour qu'il y ait moins d'immigration ou non?
Le débat de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale le 30 septembre.
Écoutez, tout cela fera partie du débat, donc je laisse les parlementaires proposer des solutions.
Vous pouvez avoir un point de vue personnel. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop d'immigration en France? Est-ce qu'il faut la restreindre?
Moi, je pense que le problème que nous avons, c'est que quand nous acceptons une immigration, quand les gens sont autorisés à rester sur notre sol, ils sont très mal accueillis. Très mal accueillis, très mal intégrés.
C'est pas, tu l'as fait ma question?
Non, mais c'est ma réponse. Ils sont très mal accueillis, très mal intégrés. Et par ailleurs, il y a des filières, il y a des réseaux de passeurs, il y a de la traite humaine. Et ça aussi, il faut le voir. Et donc, nous devons tout poser sur la table, sans idéologie, sans esprit manichéen. Il n'y a pas qu'une seule solution, c'est pas plus ou moins, c'est peut-être mieux. Et choisir qui, quand, comment doit rester sur notre sol. Ça n'est pas restreindre...
Est-ce qu'on touche au droit du sol ou pas?
Non, ça n'est pas dans le débat aujourd'hui.
C'est ce que Jérôme Larrivé...
Ça n'est pas dans le débat.
Guillaume Larrivé, pardon.
Ça n'est pas une proposition du gouvernement.
Adrien Gindre, sur un autre dossier, bien sûr, la PMA, ce sera mardi.
D'ampleur, à partir de mardi, l'examen de la loi bioéthique en séance publique à l'Assemblée nationale. Le travail en commission, lui, est terminé. Mais c'est ce matin, enfin ce week-end, en l'occurrence, qu'est apparu l'avis de l'Académie de médecine, qui nous dit la chose suivante. À propos de la PMA, la conception délibérée d'un enfant privé de père n'est pas sans risque pour son développement psychologique et son épanouissement. Ce sont des médecins, Agnès Buzyn, qui ont rédigé cet avis, qui l'ont d'ailleurs voté à une large majorité. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
L'Académie de médecine a ses prises de position. Je n'ai pas de commentaires à faire sur son avis. Monsieur Mattei, dont on sait qu'il signe...
Ancien ministre de la Santé de droite,
porte-parole des Républicains, exprime aussi son avis.
C'est un point de vue un peu idéologique, politique.
Peut-être. En tous les cas, peut-être
comme
daté
médecin, vous
aussi.
Considérez que peut-être cette daté. Appréciation est sans fondement de dire qu'un enfant privé de père, ça peut avoir un impact sur son développement psychologique.
Écoutez, aujourd'hui, nous avons un quart des familles françaises qui sont des familles monoparentales.
Et ça se passe aussi
un
bien
Un quart des familles françaises... On connaît les difficultés de certaines de ces familles, notamment qui sont paupérisées. On connaît la difficulté d'accéder à des pensions alimentaires auxquelles elles ont droit. On connaît un certain nombre de difficultés liées à la monoparentalité. Mais ne me dites pas qu'un quart des enfants français qui vivent et qui naissent dans ces familles ont des difficultés de construction. On a tous autour de nous des enfants qui sont élevés par leur mère ou leur père, d'ailleurs, seul. Et on sait très bien que, Dieu merci, ils trouvent l'altérité, ils trouvent l'autre schéma ailleurs, dans des oncles, dans des tantes et à l'école. Et heureusement, on arrive à se construire même quand on est élevé par un parent seul.
Agnès Buzyn, l'Académie de médecine dit également la figure du père reste fondatrice pour la personnalité de l'enfant. Est-ce que vous partagez ce qui est dit dans cet avis?
Je crois que les enfants se construisent avec effectivement la nécessité de comprendre quel est le rôle d'une mère ou d'un père. De là à dire qu'ils sont indispensables pour... en tous les cas, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, 1,8 million de familles françaises sont des familles monoparentales. Donc considérer qu'il y a un lien direct entre défaut de construction de l'enfant et famille monoparentale est faux. Nous le savons, nous avons des exemples partout.
Mais l'Académie de médecine sort de son rôle ?
Non, je ne me permettrai pas de donner un avis. Elle s'auto-saisit de ce
mais
qu'elle veut.
Mais visiblement, vous ne le suivrez pas.
Ce n'est pas forcément un avis médical. Ce n'est pas là-dessus qu'on l'attend, c'est un avis sociétal. Voilà, ça le regarde. Aujourd'hui, les études que nous avons à notre disposition sur les enfants qui sont élevés dans des familles monoparentales ne sont pas des études inquiétantes.
Agnès Buzyn, est-ce que vous inscrirez dans la loi le fait que la GPA sera interdite ? C'est une revendication de la droite qui vous le demande. Est-ce que vous le ferez ?
Écoutez, les débats vont avoir lieu au Parlement. En général, on évite d'avoir des lois bavardes. Une loi bavarde, ça veut dire une loi qui dit déjà ce qui existe déjà dans la loi. Or, la GPA est interdite en France. C'est dans le Code de la santé publique, c'est dans le Code civil.
Mais si ça peut rassurer, le ferez-vous ?
Et donc, non, mais je termine. Donc c'est déjà dans la loi. Et pire que ça, la GPA est soumise à des sanctions. Des sanctions à la fois pénales et des sanctions financières. Donc ils veulent réinscrire dans la loi ce qui existe déjà. Donc voilà, est-ce qu'il faut réinscrire juste pour faire plaisir aujourd'hui aux Républicains quelque chose qui est déjà dans notre code et qui est déjà pénalement répréhensible, je ne sais pas.
Est-ce que c'est aussi parce que...
D'ailleurs, c'était amusant parce que en commission, les Républicains qui ont proposé ces amendements et notamment les sanctions ont proposé des sanctions moins fortes que celles qui existent déjà dans la loi, ce qui prouve qu'ils ne les connaissaient pas.
Oui. Si vous ne souhaitez pas mettre cette mesure dans la loi, est-ce que c'est une façon d'ouvrir la porte pour l'avenir ? On se souvient de la... Votre
c'est
collègue Marielle Pénicaud disant « La France n'est pas mûre ».
C'est déjà dans le code, c'est déjà dans la loi et c'est déjà soumis à des sanctions pénales et financières. Je le répète, les députés LR qui ont voulu porter ces amendements ne savaient même pas qu'il y avait des sanctions et ils ont proposé des sanctions plus faibles que celles qui existent déjà dans la loi française.
En tous les cas, personnellement,
bien que le problème est un problème d'image.
Donc vous êtes à tout jamais contre la GPA.
Ah mais évidemment, puisque, je le répète, une loi de bioéthique est une loi qui vise à préserver nos principes éthiques fondamentaux. Or, il y a une chose qu'on ne peut pas préserver dans la GPA, c'est la dignité du corps humain et la non-marchandisation du corps humain.
Mais
je
ne peux pas le redire dans la loi.
Mais pourquoi écrire deux fois ? Enfin, ça c'est une règle... Monsieur Roquette, c'est une règle absolue. On ne réécrit pas dans le code ce qui existe déjà dans le code. Donc en fait, réécrire deux fois dans la loi ce qui existe déjà ne se fait pas. Ouais. Donc après, maintenant, si vraiment il faut l'écrire 10 fois pour rassurer les Républicains, eh bien nous en discuterons au Parlement.
On va vous écouter, puisqu'on en vient quand même au sujet des retraites assez rapidement, mais nous allons le faire, puisque vous étiez il y a quelques mois sur ce plateau. Voilà ce que vous y disiez, Agnès Buzyn.
Je ne suis pas hostile, pourquoi ? Je suis médecin. Alors je vais être honnête, je suis médecin. Je vois que la durée de vie augmente d'année en année. Elle augmente moins vite ces dernières années, mais elle a considérablement augmenté. Voilà, est-ce que, alors que le nombre d'actifs diminue, est-ce que, indéfiniment, nous allons pouvoir maintenir sur les actifs le poids des retraites qui vont augmenter en nombre et augmenter en durée ? Nous savons bien que cet équilibre-là va être de plus
Emmanuel
en plus difficile
Macron
à tenir.
Vous y étiez favorable, et vous l'aviez dit clairement, pourquoi pas y réfléchir à 65 ans. Est-ce que vous aviez péché par honnêteté à ce moment-là, comme le dit Xavier Bertrand, par exemple, aujourd'hui ?
Monsieur Sportouche, c'est au bout de votre cinquième question, insistante en disant « mais dites que vous êtes d'accord, je me souviens très très bien de notre échange ». Ma position est très claire. Nous avons l'équilibre des retraites qui est assuré par le nombre de cotisants, c'est-à-dire des gens qui sont actifs, puisque c'est une retraite par répartition, ce sont les actifs qui payent les retraites, les pensions des retraités actuels. Et il y a de plus en plus de retraités, parce qu'ils vivent aussi plus longtemps, et tant mieux. Et il y a de moins en moins d'actifs, c'est aussi lié à notre démographie. Donc nous savons que mathématiquement, à un moment, l'équilibre va être défavorable. Et comme l'objectif n'est pas de diminuer les pensions, l'objectif, c'est de maintenir à nos retraités le pouvoir d'achat qu'ils ont actuellement, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de travailler plus longtemps. C'est tout ce que j'ai dit.
Est-ce que vous êtes prête à risquer le blocage de la France quand on voit que la RATP va entamer un mouvement de grève illimité à partir du 6 décembre et qu'il pourrait y avoir une agrégation des protestations? Est-ce que vous êtes prête à aller jusqu'au blocage de la France pour imposer cette réforme?
Il n'y a pas lieu de bloquer la France. En réalité, il n'y a pas lieu de la bloquer. Pourquoi? Le haut-commissaire à la réforme des retraites a présenté un schéma cible. C'est son rapport. Ce schéma cible, il rentrera en vigueur en 2025. Mais nous savons très très bien que, autant pour les salariés du privé, il est très proche de leur système de retraite actuel, même si évidemment, c'est pas exactement le même système, puisqu'on passe par une retraite par points, mais leur taux de cotisation est le même. Donc nous savons que le pas à franchir pour aller dans le nouveau système n'est pas important pour les retraités, les actifs du régime salarié. Autant nous savons que pour d'autres régimes, notamment les régimes spéciaux, mais aussi pour les aides-soignantes, par exemple, moi j'en ai la responsabilité, pour les infirmières libérales.
Donc vous attaquerez aux régimes spéciaux.
Non, écoutez-moi, je termine ma phrase. Pour ces gens-là, le pas à franchir est difficile.
Oui.
Et donc, il ne peut pas se franchir en un an. Et donc, pour eux, on peut imaginer aller vers ce nouveau système en 15 ans, en 10 ans, en 20 ans. Et donc, les négociations commencent maintenant, régime par régime, il y en a 42, pour savoir en combien de temps on va vers une convergence vers le nouveau système. Donc pourquoi être en grève le 5 décembre alors que nous commençons une discussion sur la transition qui va mettre 20 ans?
Mais vous
ces gens-là
réforme,
vont faire une grève pour des personnes qui vont être, en fait, qui vont rentrer dans le nouveau régime en 2040. Donc je trouve ça un peu abusé alors que les négociations ne font que commencer sur la transition que nous allons discuter.
Et s'ils la font quand même, cette grève, si elle était limitée, est-ce qu'il faudra mettre en place des mesures de service minimum, par exemple, pour que les usagers ne soient pas pénalisés?
Et je laisserai Elisabeth Borne discuter de comment elle gère la grève de la RATP. En l'occurrence, je rappelle que les retraités actuels ne sont pas soumis à moindre changement, que les gens qui sont à moins de 5 ans de la retraite du régime salarié ne sont pas soumis au moindre changement, et que pour tous les régimes spéciaux, on va vers une période de transition qui peut être longue. Donc il faut qu'on se calme. L'objectif est un bel objectif. C'est un objectif d'équité. Je crois que les Français se rendent compte aussi de l'inéquité du système. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde cherche plus d'égalité dans notre pays. C'est ce qu'on entend tous les jours. C'est une réforme d'égalité.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Agnès Buzyn. Alors vous venez d'annoncer dans cette émission qu'il y a 1,5 million de fumeurs en moins depuis 2 ans. Ça a fait énormément réagir les auditeurs et les téléspectateurs qui vous écoutent. Nathalie, elle trouve que vous vous voilez la face. Et Perrine, elle complète en vous posant une question. Parce que peut-être qu'il y a moins de fumeurs, certes, mais est-ce que vous avez le nombre des personnes qui vont au Luxembourg, en Espagne, acheter des cartouches de cigarettes de façon illégale?
Oui, alors ce chiffre-là n'est pas lié au chiffre de vente. Parce que nous savons évidemment qu'il y a de la fraude, de la contrebande, et Gérald Darmanin fait un travail extraordinaire justement avec les douanes françaises pour saisir toute cette fraude. Nous accompagnons aussi les buralistes des zones transfrontalières pour maintenir leur pouvoir d'achat. Donc nous sommes très attentifs à cela. Ces chiffres-là viennent d'enquêtes de gens qui déclarent être des fumeurs quotidiens. Et donc ce sont des enquêtes qui permettent vraiment de mesurer le nombre de personnes qui fume tous les jours et il y en a moins.
Autre question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, autre sujet. Un salarié du privé sur deux se dit épuisé au travail. Donc c'était le résultat d'un baromètre sur la santé qui a été dévoilé cette semaine. Et on voit beaucoup sur Twitter de personnes qui s'échangent des conseils pour aider leurs proches qui sont victimes de burn-out. Pourquoi est-ce que vous refusez toujours de reconnaître le burn-out, l'épuisement au travail, comme une maladie professionnelle?
Alors ce n'est pas la ministre qui refuse, c'est qu'aujourd'hui dans la littérature internationale, et la Haute Autorité de Santé avait été saisie de ce dossier il y a 2 ans, une saisie par le ministère de la Santé. Toute la littérature scientifique, les scientifiques s'accordent à dire que le burn-out est un symptôme, mais n'est pas une maladie. Et donc, il y a maintenant des recommandations de prise en charge pour mieux anticiper le burn-out, pour mieux accompagner les personnes. C'est un vrai sujet de société, mais ça ne peut pas être caractérisé comme une maladie. En tout cas, les scientifiques ne le font pas.
Un pour ou contre sur la PMA, Marie-Pierre Haddad, avant la fin de cette émission.
Oui, très rapidement, Jean-Bernard veut savoir si vous voulez faire un référendum sur la PMA. Est-ce qu'il estime que tous les Français doivent être consultés ?
Pas du tout. Absolument pas. Il y a un projet de loi et la représentation nationale, les élus du peuple, voteront ou pas ce projet.
Et un référendum sur les retraites, sur la réforme des retraites, c'est envisageable ou pas ?
Ça n'est pas non plus dans les tuyaux. Il y a une grande consultation nationale qui s'ouvre, on démarre.
Mais vous, est-ce que vous y seriez favorable si vous voyez que c'est clivant ?
Commençons par la consultation et puis nous verrons comment c'est ressenti par les Français au quotidien dans ces débats que nous allons avoir, notamment dans les régions.
Vous n'excluez rien, Agnès Buzyn. Merci à vous, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.